Comment la maquerelle s'adonne à l'écriture, l'art visuel, la performance, en plus de toucher à l'éducation et à la traduction littéraire. Le prix Joseph Estoffer du Conseil des arts du Canada et qui s'adresse aux artistes émergents qui soulignent l'ensemble de leur carrière, lui a été décerné en 2021, félicitations, soulignant ainsi son exploration dans la notion du genre, du corps, de l'espace, dans son art, dans ses écrits, et tout son soutien à la cause de la diversité, je croirais. Alors, l'artiste multidisciplinaire, engagé, j'ose avoir recours à ce mot, engagé, nous transporte dans l'univers enchantant de son île natale, l'île Maurice, dans le cadre de sa toute première exposition solo à la Galerie McClure, titrée « Who Sings the Queer Island Body » jusqu'au 25 mars 2023. Tout un événement pour l'artiste et tout un déploiement d'œuvres qui vise à amener le public à jeter un regard libéré de l'époque du colonialisme. Bienvenue, Kamal Amakerel.
Merci pour l'invitation.
J'ai le plaisir de rencontrer l'artiste dans son atelier. Encore merci de cette disponibilité en ce lendemain de vernissage. J'imagine que vous êtes un peu fatigué. Alors, si vous nous présentiez d'abord les causes qui vous tiennent à cœur, hein, la souveraineté des îles, c'est assez d'importance pour vous. Hein.
Oui, tout à fait. Je pense que dans tout mon travail, dans tout mon corpus, il y a toujours un engagement avec l'histoire coloniale et le fait que cette histoire n'appartient pas au passé, que cette histoire vit encore maintenant dans toutes sortes de structures politiques, sociales, culturelles, économiques de la société. Et je pense que par rapport on réfléchit beaucoup à la décolonisation, surtout en ce moment, je pense que par rapport, disons, au peuple autochtone, la question de la réconciliation dans un contexte canadien, qui est un travail très, 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 très important. Mais je pense que aussi, moi, donc, ce qui m'habite dans ma réflexion, une des choses qui m'habite dans ma réflexion par rapport à l'histoire, c'est l'engagement avec l'histoire coloniale des îles.
Et vous souhaitez aussi que ça déborde de l'île Maurice, que ça puisse s'appliquer à bien d'autres lieu sur cette terre.
Exactement, oui. Parce que je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir, surtout dans le contexte écologique dans lequel on vit en ce moment. Je pense qu'on a une réflexion approfondie à avoir avec notre relation au territoire, notre relation au cours d'eau, notre relation aux ressources naturelles, à ce qui nous entoure, à ce qui nous permet d'être en vie. Donc pour moi, oui, il y a une certaine réflexion par rapport aux îles, mais je pense que cette réflexion, j'espère, s'applique dans différents contextes, forcément différemment, mais je pense que c'est très, très important là où on est rendu de re-réfléchir notre relation à ce qui nous permet d'être en vie.
Alors, pour vous, il y a encore un bon bout de chemin à faire pour se libérer de ces structures, de ce regard colonial. Il y a encore bien des objectifs à atteindre.
Oui, et je ne dis pas que moi, j'ai la solution. Je pense qu'à travers ma pratique artistique, ce que j'essaie d'offrir, c'est une piste de solution. Donc, entre autres, par exemple, moi, j'explore beaucoup l'hybridité. Donc, l'exposition, par exemple, « Who Sings the Queer Island Body » est une exposition interdisciplinaire, multilingue, à travers des compositions sonores, du textile, du sel, des projections, de la vidéo, de la photographie. Et moi, ce que j'essaie de faire émerger à travers cette interdisciplinarité, c'est des modes d'exister en dehors des catégories coloniales. Parce que je trouve que dans...
Dans celle du fameux tourisme.
Entre autres, ouais. Oui. Mais je trouve que de plusieurs manières, la manière dont le savoir est créé dans la société contemporaine dans laquelle on vit, c'est des outils qui émergent de l'histoire coloniale, de l'expansion européenne. Et je pense qu'on en est à un certain moment où moi, l'interdisciplinarité me permet en fait de voir les choses différemment. Même dans ma propre vie, dans ma propre identité, c'est parce que souvent on a cette tendance à croire qu'on est une chose et il faut qu'on reste cette chose pendant tout le reste de notre vie. Et ça, c'est un récit qui est très colonial, qui est très linéaire, alors qu'en tant qu'humain, on est rempli de contradictions, on est des êtres complexes, on se transforme, on change. Et pour moi, donc, travailler dans cette espèce de fluidité, de mouvance, d'hybridité, je ne dis pas que c'est la solution, mais selon moi, c'est une des pistes qui peut nous permettre de se libérer de ce cadre colonial dans lequel on est.
comme individu et comme peuple, parce que ce que vous dites là, cette évolution-là, ça peut interpeller tout un peuple, notamment celui de l'île Maurice.
Oui, entre autres, et j'espère aussi, je vis au Québec maintenant depuis 10 ans, je m'identifie aussi comme québécoise.
Absolument!
Ouais, j'ai...
Vous avez tout un appart avec votre expérience de vie. Là.
Voilà, et donc j'espère que ça permet d'ouvrir à d'autres espaces.
Maintenant, il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaitez mettre de l'avant, c'est la fameuse catastrophe écologique du MV Wakashio. Hein, je pense que ça vous a beaucoup ébranlé.
Oui, tout à fait. Donc, en 2020, en juillet 2020, il y avait un vraquier qui appartenait à une compagnie japonaise, qui traversait l'océan avec sous un drapeau du Panama, qui était en route pour le Brésil avec une équipe de marins indiens qui travaillait là-dessus, et ce vraquier s'est échoué sur les récifs coralliens du sud-est de l'île Maurice, où ce qui s'est passé, donc le vraquier s'est brisé en deux et plus de 1000 tonnes de pétrole se sont déversées dans le lagon. Et vraiment,
catastrophe.
Ouais. C'est la plus grande crise écologique qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'île, vraiment.
J'imagine que l'impact est encore observable.
Voilà, ça a changé beaucoup de la biodiversité parce qu'il y avait énormément d'espaces marins protégés, dont des forêts de mangroves dans cette partie de l'île.
Oui.
Mais aussi, surtout pour les gens, donc pour les personnes de cette région qui, pendant des générations, ont gagné leur vie à travers le lagon. Donc ça, c'est toute leur vie qui a changé à tout jamais.
Et vous dénoncez que si on était intervenu plus rapidement, on aurait pu éviter l'ampleur de cette catastrophe?
Ce que je dénonce surtout, c'est qu'il y a eu quand c'est arrivé, c'était vraiment au niveau local, où les gens se sont mobilisés. Vraiment, il y avait des gens, la population mauricienne, vraiment, il y avait des gens qui allaient se raser la tête, se couper les cheveux pour faire des bouées, pour pouvoir contenir la marée noire. Mais au niveau international, il n'y a aucune responsabilité qui a été prise. Et je pense que ça m'a beaucoup frappé parce que, historiquement, dans la conception des îles, dans un contexte colonial, les îles ont toujours été traitées comme des espaces jetables, comme des espaces d'expérimentation, comme des espaces où on peut se servir sans jamais avoir une forme de responsabilité, à la fois pour les personnes qui y vivent et pour les écologies qui y existent. Et je pense que ça m'a beaucoup frappé en 2020, où je me disais, mais c'est la même structure qui n'arrête pas de s'exprimer de la même manière, et quelque part, en développant cette exposition, en se demandant mais qui chante, qui offre une prière au cœur de l'île. Pour moi, c'était cette réflexion aussi de pouvoir réarticuler en fait ce qu'il y a de sacré dans ce que moi, dans ma pratique, j'appelle le cœur de l'île, et de se dire les choses ne peuvent pas se passer de la même manière.
Donc, vous, vraiment, ce qui vous tient à cœur, c'est la souveraineté non seulement de l'île, mais la souveraineté de l'île, mais sur différents plans. Humain, écologique,
ancestral, géologique, minéral. Oui, pour moi, c'est de comprendre le relationnel, encore une fois, de briser, d'aller au-delà des catégories.
Parle de tout un écosystème là, sur place.
Exactement, exactement. Je dis tout, même par rapport à notre relation, dans le sens où c'est les territoires qui nous nourrissent. S'il n'y avait pas les territoires, on n'aurait rien à manger. On n'existerait pas en tant qu'humain. Et il y a une forme de respect, il y a une forme... il y a une relation qu'on doit réimaginer par rapport au territoire, au cours d'eau. Je vous disais, même en tant qu'humain, on est quoi, 66-70% de liquide qu'il y a cette eau en nous.
Donc, c'est une cause là, que vous mettez de l'avant particulièrement, la cause des océans.
Absolument, absolument.
Actuellement, là. Alors, expliquez-nous, Kamala Makarel, votre choix de recourir à une cartographie décolonial du corps queer. Pouvez-vous nous préciser?
Oui, tout à fait. En fait, ce que je fais à travers cette expo et les différentes œuvres, je réfléchis à la souveraineté. Donc, ce que moi, dans ma pratique, j'aime appeler le cœur de l'île. Et il y a une grosse réflexion par rapport à ça, mais j'intègre beaucoup mon corps dans ma pratique artistique. Et je pense qu'il y a un lien que je fais entre la souveraineté des personnes queer et trans, dans le sens qu'on a perpétuellement, on nous demande perpétuellement de justifier nos existences. On est toujours en train de pousser notre existence vers une forme d'autodétermination. Et je trouve trouve que c'est il y a quelque chose qui lie cela par rapport à l'île, et je pense qu'il y a aussi pour moi la présence de la spiritualité qui lie tout ça, parce que moi je viens d'une histoire culturelle et religieuse où des personnes comme moi, donc des personnes trans, qui dans un contexte contemporain occidental, on dirait transgenre, où notre relation à la transidentité était un rôle spirituel. Et dans ce rôle spirituel, notre responsabilité, c'était aussi de prendre soin des territoires, de connaître l'histoire de là où on était, pas uniquement des peuples, mais d'être en lien spirituel avec l'île. Donc pour moi, il y a une nouvelle cartographie qui se dessine donc dans cette relation entre le corps queer et le corps de l'île, et c'est quelque part, c'est
et
ça
vous, que vous puisez dans l'histoire, là, dans oui. les traditions, là, pour voilà. intégrer le corps dans votre démarche artistique.
Mm-hmm. Hein. Tout à fait, tout à oui. fait. Et je pense que je critique aussi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de critiquer la cartographie elle-même, parce que la cartographie telle qu'on la comprend est un outil de production, de savoir, mais cette cartographie et cet outil est un outil colonial. Donc la cartographie servait à l'expansion impérialiste. Mm, oui. Donc moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de restructurer cela, d'offrir une nouvelle cartographie.
Alors, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc, présenter cette cartographie selon un autre angle,
voilà.
de tout à fait nécessaire d'ailleurs. Alors, si vous nous présentiez votre méthode interdisciplinaire hein, que vous développez depuis 10 ans et l'impact mm-hmm. souhaité. On peut l'expérimenter. Vous avez transformé votre exposition en exposition immersive, mm-hmm. mais qui suscite toute une réflexion et des questionnements. Mais quel est l'impact recherché à travers cette multidisciplinarité?
Je pense que ce que je dans la méthode oui. elle-même, pour moi, je pense à bon, j'avais pas réalisé que c'était une méthode. C'est 10 ans plus tard, je me dis, ah, je crois que je développe quelque
une
chose.
Une approche, peut-être. Ouais.
Il y a quelque chose qui ressort. Oui. Dans le processus, je n'ai pas réalisé cela. Mais pour moi, c'est une forme de créolisation, en d'autres mots. De travailler entre les langues, à travers les langues, de ne pas toujours tout traduire, de laisser perdre des choses, de ne pas toujours tout expliquer, mais de permettre une multiplicité de récits d'émerger. Donc des récits visuels, des récits auditoires, des récits linguistiques, des récits poétiques, des récits esthétiques, des récits politiques. Donc pour moi, c'est d'offrir une multiplicité de récits qui permet à certains moments une forme de compréhension et à d'autres moments tout juste d'être dans l'inconfort de l'incompréhension. Mais à travers cette multiplicité de récits, ce que j'espère
et
honorer.
J'ai bien apprécié cette proposition, là. Je me suis perdue un peu dans votre exposition et dans l'île. Avec plaisir.
Ouais, et j'espère pouvoir émerger une notion de multiplicité, vraiment, qui pour moi est un acte politique que je dirais décolonial, dans le sens que on vit encore dans une structure qui nous demande de toujours nous catégoriser, même dans les arts. Je veux dire, il y a des catégories d'art. On dit, si tu fais de la danse, tu fais uniquement de la danse. Et moi, je veux, même dans la discipline artistique, ce que je veux faire, c'est mélanger tout ça, parce que
oui,
je pense...
Oui, vous avez de larges horizons, là.
Voilà. Et je oui. pense que ça oui. nous permet, pour moi, c'est un accès à la liberté, en fait. Ça nous permet de nous émanciper et de nous libérer.
Oui, faire tomber des barrières aussi entre les disciplines avec lesquelles parfois il faut composer dans le milieu artistique. Maintenant, si on faisait ensemble un petit survol de l'exposition présentée au Musée Méclore pour donner envie de vivre l'expérience, d'aller voir l'exposition de près puis de vivre l'expérience sur place.
Donc, il y a une série, une toute nouvelle série de photographies que j'ai développée au cours des quelques derniers mois à l'île Maurice, qui vraiment met en relation le corps queer et le corps de l'île.
Et j'espère que je peux dire qu'elles sont magnifiques.
Merci. merci.
Oui.
Ensuite, en lien...
Vous prenez vraiment des pauses qui s'intègrent si bien aux environnements.
Merci. Ben, c'était beaucoup, dans ce processus, pour la photographie, j'étais beaucoup à l'écoute. C'était beaucoup un processus d'écoute, d'être à l'écoute du territoire, d'être à l'écoute de l'écologie. Donc, c'était souvent des longs processus. Ça pouvait prendre des heures et ça se terminait avec une photo. C'était pas...
Des déambulations de plusieurs heures, effectivement.
Voilà, parce que pour moi, je suis vraiment dans un espace de méditation en lien avec l'île. Et de là, la photographie, à la fin, sortait du processus. Sinon, il y a du textile et du texte.
Un îlot particulier que j'ai déjà vu, que vous réexposez, qui était au centre d'exposition de l'Université de Montréal.
Voilà.
Mais là, qui prend tout son... qui a tout un impact, là, faisant partie d'une exposition dans son ensemble.
Exactement. Ouais. Donc... Et à travers ça, j'explore ce que j'appelle des archipels de poésie. Donc je dessine sur du textile des archipels de poésie multilingues comme une manière de recartographier les océans et les îles. Il y a aussi, j'aime beaucoup les... pour moi, c'est la première fois en fait que j'arrive à présenter une expo qui a aussi un univers sonore qui rend aussi cette dimension immersive. Donc il y a deux installations, il y en a une, il y a une projection sur du sel.
Qui est une œuvre centrale, oui.
Oui. Et le sel est présent dans d'autres parties de l'exposition parce que j'ai une installation in situ dans la vitrine de la galerie où il y a du sel et dans les différents textiles dont je me suis servi, les textiles ont été imbibés de sel aussi. Donc j'ai peint sur de la soie avec de la peinture sur soie et du sel. Donc le sel revient quand même comme thème à travers l'expo. Oui, et ensuite il y a les univers sonores multilingues aussi à expériencer.
Et il y a des zones d'intimité que vous créez, là.
Voilà, oui. C'était ça, c'était de créer. Parce que je me dis que pour moi, c'est...
Oui, allez-y.
J'allais dire, on a tous et toutes différents points d'accès. Dans le sens que je dis toujours, c'est pas tout le monde qui veut s'asseoir et lire un livre, c'est bien correct. Et je pense que ce que j'essayais de créer, c'est multiples points d'accès. Il y a certaines personnes qui sont plus visuelles, il y a certaines personnes qui veulent écouter un rythme, il y a certaines personnes qui veulent lire une poésie. C'est pas tout le monde qui veut lire une poésie. Donc, pour moi, à travers l'expo aussi, je voulais créer dans la multidisciplinarité, c'est de créer différents points d'accès par rapport à ma démarche.
Et il y a un côté très vaporeux, votre exposition, avec des voiles, des bandes, le petit îlot en tissu que vous créez, c'est souhaité, hein?
Oui, c'est absolument souhaité. C'est de créer différents espaces. En fait, pour moi, ce que j'espère, c'est que quand on y va, c'est que chaque personne se fasse sa propre déambulation. Forcément, il n'y a pas une manière de voir l'expo, n'importe qui peut commencer l'expo où, mais je pense qu'il y a une narration qui peut se construire à travers une tournée de l'expo, qui peut se refaire une deuxième fois, mais complètement différemment, et de créer différents espaces émotionnels, différents espaces spirituels.
Oui, parce que votre œuvre centrale qui est au sol nous entraîne à un moment donné dans une forme de rituel. Alors, on est entraîné dans votre... si vous me parliez de ces déclamations que vous faites là en plein centre de l'exposition.
Oui, tout à fait. Et en fait, dans le processus de création, toutes les pièces, toutes les œuvres qui sont dans cette expo, le tout a été créé à travers un processus de rituel. Il y a absolument... Oui, il y a la projection sur celle elle-même qui est une projection d'un rituel avec du sel qui est projeté sur du sel, mais tout le reste de la création, même la poésie, le textile, la photographie, le tout a été créé justement dans une pratique de rituel et de spiritualité.
Oui, alors écoutez, j'ai été très sensible à cette œuvre au centre de la galerie. Et évidemment, une exposition imprégnée de poésie parce que vous écrivez de la poésie très, très brièvement, si vous nommiez le livre que vous avez écrit récemment.
Oui, mon livre, c'est « Hommes-femmes » qui a été publié
chez... Un recueil de poésie?
Oui, c'est un recueil de poésie publié chez Metonymy Press en anglais, ici, qui est une maison d'édition ici basée à Montréal.
Est-ce que ce sont des extraits qu'on peut lire, des extraits de votre... recueil de poésie
qui sont dans l'expo.
Oui,
il y a certains thèmes en fait de ce recueil que j'ai continué à explorer, qui en fait se sont transformés en exposition. C'est pas il y a surtout la notion. En fait, j'ai un vers en particulier dans le recueil qui dit ton corps est ta demeure, ton corps est une île, ton corps est ta demeure, ton corps est l'océan. Et je pense que j'ai vraiment pris ces quatre vers du recueil et je les ai transformés dans une exposition.
Je suis honorée que vous transmettiez cette poésie pour nous. Merci de votre déclamation est très inspirante. Alors, écoutez, c'est une exposition vraiment à vivre. Non seulement à les voir, mais à vivre, dont il faut faire l'expérience absolument. Première exposition solo de Kama Lamaquerelle. Merci de nous avoir transmis tant vos causes, vos préoccupations, votre approche que cette exposition qui vous tient à cœur beaucoup. Alors, et c'est une exposition qui se poursuit quand même, qui a une bonne durée d'un mois, j'ose espérer.
Oui, qui continue jusqu'au 25 mars à la Galerie McClure, Centre des arts visuels à Westmount.
Merci beaucoup de cet entretien très agréable et bonne continuation parce que vous êtes très occupé dans les prochains mois. Merci.
Merci pour l'accueil.